le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, va enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000.
Bonsoir.
Sébastien et Romald et Romain pour cette émission 255.
On a fait un escape game à l'envers là, à l'instant.
Sébastien, tu reviens du cinéma où tu étais voir 28 ans plus tard, c'est ça ?
Oui, c'est ça, le nouveau film de Danny Boyle, scénarisé par Garland.
Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire une émission spéciale zombie.
Et je tiens aussi à la dédicacer à Jean-Luc qui malheureusement ne peut être des nôtres ce soir.
Alors tu nous parleras livre-jeu aussi de zombies, enfin.
Oui, particulièrement du sang des zombies de Ian Livingstone qui divise les fans, mais un peu comme 28 ans plus tard.
Ok. Et puis Romald, on parlera jeu de zombies.
Eh ben oui, on va parler jeu de zombies, t'as amené des boîtes, j'ai amené une boîte. Et,
surtout zombicide.
Et voilà, on va parler de zombicide, et c'est un incontournable quand on parle de zombies.
Alors on avait déjà fait une émission il y a longtemps, c'était en 2014 sur le Bayou, et Marie-Charlotte, qui faisait partie de cette émission à l'époque, nous avait fait une rubrique, une chronique sur les origines du zombie, origine haïtienne. Donc on va se réécouter ça, une petite séquence d'archives, comme font pas mal d'émissions de radio en ce moment-là, qui sont tous partis en vacances.
Oui. Et l'été.
On va commencer finalement avec Send More Paramedics. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de ce groupe ? Alors c'est une phrase qui est dite dans Return, le retour des morts vivants.
La parodie ou
Le retour des morts vivants, film un peu humoristique vers 1985, je crois que c'est Dan O'Bannon quand même.
Oui, il est drôle celui-ci. Ouais.
Et Send More Paramedics, c'est un groupe de zombie-core.
Waouh.
En fait, c'est du trash-core plutôt. C'est un peu entre le trash metal et le hardcore. Et le groupe ne parlait que d'invasion de zombies. Et ils montaient sur scène déguisés en zombies. Ils ont arrêté en 2007, un moment où ils disaient qu'ils étaient trop trop déconfit, trop décati, trop
décomposé,
trop décomposé pour pouvoir continuer à faire des concerts. Ils sont quand même revenus, les zombies reviennent souvent. Ils sont quand même revenus, ils avaient refait un album en 2021, mais là on va s'écouter un extrait de leur album The Awakening qui raconte, il y a même un petit CD-ROM dedans avec des clips et aussi il y a du texte, ça raconte toute une histoire, un album concept. Et on s'écoute le morceau Flail of God. Ça dépote ça. Sur Radio G. Avant qu'on parle de zombies, je voulais rappeler l'appel à texte qui vient de sortir, Femme de pouvoir, pour notre 15e édition. Vous pouvez aller voir le détail. Ouais, sur notre site web. Taille du texte maximum 25 000 signes, enfin plus ou moins 10%, et date limite d'envoi 31 octobre.
Donc sur imaginaire.fr.
Ouais, et sur nos réseaux aussi. Sébastien, on t'écoute. On parle de 28 ans plus tard.
Ok, bah je pensais qu'on commençait par Charlotte, Marie-Charlotte.
Ah oui, t'as raison, c'est vrai.
je suis le programme hein, quand même.
J'ai complètement zappé Marie-Charlotte. Alors Marie-Charlotte, ouais, faut que j'aille la retrouver.
C'est archivé, mais...
Oui, c'est vrai. C'est parti très très loin. Alors Marie-Charlotte, ouais, donc c'était en septembre 2015.
Ah, tu connais Romuald ?
Oui, on s'est...
Tu faisais pas partie de l'association
Non, mais je traînais avec vous depuis un certain temps déjà.
Et donc, on s'était fait une émission spéciale Bayou. Alors, à l'époque, l'animateur, c'était Julien, alias Julien Caldironi maintenant. On s'écoute ça tout de suite sur le 100.5.
Alors, on va continuer avec les légendes du Bayou et la Louisiane. Et donc, parler des zombies. Alors, il faut savoir qu'il y a deux créatures fantastiques différentes dans le concept des zombies. Celle tirée par la culture vaudou, où le zombie est un mort réanimé et sous le contrôle total d'un sorcier, que l'on appelle Bokor. Et il y a un concept un peu plus récent, qui désigne en fait des personnes à l'origine vivantes, mais qui ont été contaminées par une maladie ou un élément chimique, et qui ont donc l'apparence de morts-vivants pourrissant debout, dépourvus d'intelligence et recherchant continuellement la chair des vivants. En restant dans la culture du vaudou haïtien et de la région de la Louisiane, on dit que le zombie est une personne victime d'un bokor, donc le prêtre vaudou, et qu'il est privé de son âme par l'administration d'une puissante drogue. La victime meurt, est enterrée, et quelques jours après est réveillée par son maître vaudou grâce à un antidote qui le sort de son état de léthargie. Et la victime est ensuite réduite à l'esclavage. Donc le vaudou, outre ses croyances religieuses, a été utilisé à des fins d'esclavagisme. Plusieurs recherches ont été réalisées pour comprendre ce phénomène qui amène à beaucoup de questions, suscite la curiosité de beaucoup. Et donc, notamment des recherches scientifiques pour expliquer d'un point de vue scientifique le phénomène de zombie. Alors, un scientifique spécialisé dans ce domaine, il s'agit de Wade Davis, c'est un anthropologue canadien qui s'est intéressé à des cas de zombies, et notamment à celui le plus connu, celui de Clervius Narcisse. Alors, Clervius Narcisse explique qu'il a été témoin de sa zombification.
Ouais, pas cool.
Déjà, il était là.
Déjà, il démarre bien. En fait, il est tombé malade en 1962 et a été enterré peu après. Il raconte qu'il a été soumis à cette drogue vaudou et qui lui permettait en fait de ressentir tout ce qui se passait autour de lui, mais il était pris d'une paralysie, donc cela l'empêchait de bouger et parler. Donc il assistait à son propre enterrement en ne pouvant rien faire. Et il a été réveillé quelques jours plus tard par un prêtre vaudou pour être réduit à l'esclavagisme pendant 2 ans, où il a travaillé dans les grandes raffineries d'Haïti avec une centaine d'autres personnes dans son cas. Et donc, Wade Davis a écrit un long reportage sur les zombies et sur le témoignage de Narcisse. Et ce long reportage est contenu dans le livre « Le serpent et l'arc-en-ciel ». Donc c'est un sujet délicat puisque cela met en jeu des différences de croyances, de convictions. Donc c'est un livre qui peut prêter à controverse mais qui reste intéressant puisqu'il explique ces légendes d'un point de vue scientifique. Alors Davis suppose que la mort de Narcisse n'a été qu'une apparence résultant d'une drogue fournie par le bokor qui le persécutait. La drogue utilisée, il s'agit de la tétrodotoxine. Donc c'est un paralysant que l'on retrouve notamment chez les poissons globes aussi et les crapauds de canne. Donc original, et qui conduit à des symptômes de paralysie, d'atteinte du système nerveux, de pâleur, de cyanose, donc c'est la peau bleutée, et d'hypothermie, donc de quoi se faire réellement passer pour mort. Lorsque le prêtre réveille sa victime, Davis suppose que la victime, du fait de cette drogue, conserverait un effet paralysant sur certains circuits du cerveau, et ainsi le prêtre vaudou peut utiliser sa victime comme esclave. Elle est privée de toute volonté et n'est là que pour obéir. Et donc à cette attitude de zombie où elle perd totalement son intelligence. Alors si vous voulez continuer avec cet univers, le livre de Davis a été le fruit de l'inspiration pour le film de Wes Craven, L'Emprise des Ténèbres. Donc un film très réaliste sur ce côté fantastique.
Ouais, je crois qu'il lance une poudre, il me semble, sur les gens, une poudre blanche.
Oui, c'est ça. C'est une poudre.
Finalement, ça casse la magie eh ben, terrifiante du vaudou.
Ce que nous ne comprenons pas, nous l'appelons magie.
Ouais, ben voilà.
J'espère qu'il n'y a pas des chefs d'entreprise qui nous écoutent parce que ça
va. Ça va leur donner des idées, ouais. On va se retrouver.
C'est déjà fait, la preuve.
Ah bon. Ouais.
Ils rajoutent ça dans les rations à la cantine, peut-être, et les ouvriers sont bien dociles.
I walk
C'était Alice Donut en 1995, un extrait de l'album Pure Acid Park, I Walked with a Zombie. C'était une reprise de Rocky Erickson, ex-chanteur de, je sais plus, ce groupe de texans psychédéliques, 13 Floor Elevators. Et c'est aussi le titre, un des titres de Voodoo, film de Jack Turner en 1943. Qui est vraiment un film de zombies qui se passait à Haïti, hein. Mais qui n'est pas le premier film de zombies, parce que c'est White Zombie en 1932 avec Bela Lugosi, et aussi un film qui parle d'esclavage et de zombies haïtiens. Mais là, on va passer aux zombies du XXe siècle,
ouais, avec Sébastien.
Des zombies qui courent beaucoup plus vite.
Qui courent beaucoup plus vite que le zombie haïtien dont nous a parlé Marie-Charlotte au début. Alors, 28 ans plus tard, c'est un film qui dispose de plus de budget que les deux premiers, de 8 et de 15 millions respectivement. Là, on passe à 60 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien. Et il fait partie, en fait, d'une possible trilogie. Il y a déjà le deuxième qui est programmé pour le 14 janvier 2026, Yvonne Temple, je pense, mais qui va être réalisé par une autre personne que là, par Danny Boyle, qui retrouve donc son acolyte du premier, Garland. On va dire que c'est une suite directe au premier film, 28 jours plus tard. 28 ans plus tard.
Donc on zappe 28 semaines plus tard.
En quelque sorte, oui. En gros, c'est pas vraiment un gros spoiler. À la fin de 28 semaines plus tard, je pense qu'on voit Paris.
Ouais, enfin, infecté. On voit la Tour Eiffel.
Et puis, en fait, ils ont réussi à, en fait, le reste de l'Europe, hormis l'Angleterre, à écarter la menace zombie.
Ok.
Okay, un petit clin d'œil quand même. Au deuxième volet. Alors là, moi, ce que j'aime beaucoup dans 28 ans plus tard, c'est les personnages principaux. Donc, on s'attache notamment à une famille, au père, Jamie, à la mère, Isla, et à son fils, Spike. Et ils vivent sur une petite île anglaise, en fait, comme un sanctuaire loin des infectés. Mais
donc les infectés courent toujours dans le Royaume-Uni.
Ils courent toujours dans le Royaume-Uni, okay. Et l'île reste quand même accessible à marée basse avec le reste du Royaume-Uni.
Mm-hmm.
Et c'est un peu la raison d'être aussi pour le père de former son fils. Donc à partir de 12 ans, il l'emmène en fait tuer des infectés.
Ah oui.
Donc il l'emmène hors de l'île. Donc ça fait l'office d'une première partie. Au cours de laquelle donc on a Spike, donc qui est très bien joué d'ailleurs, et qui sort de l'île avec Jamie, mais pour sa deuxième sortie, et ben là il le fait avec sa mère Isla. Donc c'est pas le même un peu road trip. Donc, je veux pas en dire trop. Et puis il y a un quatrième personnage auquel je me suis attaché, un personnage assez mystérieux, sans spoiler, le docteur Kelson. Donc il va avoir quand même un rôle assez central et qui vit lui sur le continent. Et donc, ça va être un des personnages que voudra rejoindre Spike, alors que Jamie, son père, s'en défiait. Donc, on voit également beaucoup d'infectés, Romain. Et alors là, Romuald, je vais en appeler à ta mémoire des deux premiers. J'ai repéré qu'il y avait différents infectés là dans le nouveau, les remplants, et les alphas, des zombies qui courent très 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 vite, tout nus en plus, mais qui ont le don un peu de réfléchir.
Ah.
Et est-ce que toi, dans ta souvenir de cette caractérisation de différents zombies dans les deux premiers films?
Non, pas du tout. Dans les deux premiers, les zombies sont tous les mêmes, sont tous des enragés d'ailleurs, avant d'être des zombies, hein, finalement. Non, pas du tout. Donc c'est une nouveauté qui a été instaurée.
Ils courent tous très vite.
Très très vite.
Et ils sont contaminés très vite. Hein. Ça prend...
Alors extrêmement vite, quelques secondes. Et, ouais. Et en fait, ils sont pris d'une violence incontrôlable.
Et juste un truc que j'ai trouvé étrange, c'est que dans le premier, à un moment, il y a un enfant qui parle. Et on considère apparemment que c'est un des enragés. Mais je sais pas, est-ce que vous avez souvenir où il communique un peu
Je l'ai pas revu depuis longtemps.
Ça dépend en fait du temps peut-être aussi après l'infection peut-être.
Alors on découvre dans 28 semaines plus tard, donc le deuxième film, celui qui est sorti en 2007 avec d'ailleurs avec Jeremy Irons dedans, qui avait un petit rôle. Il était peut-être moins connu qu'aujourd'hui, qui joue dans les Marvel hein, maintenant. Oui. Et je me perds. Et en fait c'est dans celui-ci.
Oui. C'est le tireur d'élite.
Oui c'est ça. C'est un Américain qui joue un Américain. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est parfait. Voilà. On voit qu'il y a des gens qui ne vont pas être atteints. Voilà. Il y a des porteurs sains.
Il y a également quelques singularités dans le film, et je veux pas spoiler.
Ok.
Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'ils courent, mais les remplants, ils courent pas. Ils sont vraiment très, très, très lents.
D'accord, ok.
En fait, c'est comme des escargots qui rampent sur le sol. Ils font un peu pitié. C'est comme si ils n'avaient pas moyen de se nourrir ou.
Et ouais, c'est peut-être ça. Alors, parce que dans 28 semaines plus tard, ils avaient déjà eu le temps de tous mourir de faim.
Ouais, en 5 semaines, ouais.
Donc, comment ça se fait que 28 ans plus tard, il y en ait encore?
Peut-être qu'ils sont bien broutés, peut-être.
Oui. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai relevé, c'est aussi la relation particulière qu'entretient le docteur Kelson, en fait, qui va établir une sorte de pyramide avec différents crânes mêlés d'humains.
On voit effectivement ça sur les affiches, c'est très troublant.
Et alors, ce qui est aussi troublant,
ça fait un peu barbare.
Mais il n'est pas aussi barbare que ça.
D'accord.
Et c'est sa relation qu'il entretient avec Samson, un infecté alpha, donc supérieur. Samson, donc il le personnifie. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que dès qu'il devient menaçant, en fait, il s'approche de son territoire et tout, et ben il le calme avec une flèche tranquillisante. On pourrait penser qu'il va le tuer, mais en fait, et je me suis dit, mais pourquoi il a cette relation avec Samson? Et je me demande s'il y aura pas donc une explication à cela, à l'un de ces mystères que je vous dévoile, voilà, dans le deuxième film. Donc il y en a qui se posent des questions. Ah oui, le scénario, il c'est pas qu'il a ni queue ni tête, mais à des moments il part dans des pistes qu'on comprend pas, dont celle que je viens de vous exposer. Mais attendez de voir la suite pour vraiment comprendre.
Donc c'est un film où il pose des jalons, quoi.
Voilà, des jalons. Et après il y a une première partie qui est assez frénétique, assez rythmée, avec beaucoup d'infectés. C'est la première sortie sur le continent de Spike avec son père. C'est vraiment très, très, très prenant. On va dire les 40 premières minutes. Et c'est vrai que la deuxième partie du film, lorsqu'il s'en retourne sur le continent, cette fois avec sa mère, en quête du docteur Kelson, eh bien, c'est un peu plus lent. Voilà, c'est comme s'il y avait deux films en un. Mais j'ai trouvé la réalisation toujours aussi impeccable de Boyle en comparant au premier. Et j'ai trouvé, moi, le film vraiment intéressant, qui pose des jalons, comme tu dis, Romain. Et ça m'a donné envie de voir la suite. Et je vous dis encore pas tout, hein, parce qu'il y a d'autres personnages, mais je vous laisse le plaisir d'approfondir tout cela en allant le voir en salle. Voilà.
D'accord.
Bien. Ok.
Est-ce que la suite, tu as dit, c'est dès de l'année prochaine?
Elle a déjà été tournée, elle va sortir en janvier 2026.
D'accord, donc on va pas attendre Star Wars pendant 2 ans.
Mais est-ce qu'il y aura un troisième? Parce que là, malheureusement, ça semble se tasser l'affluence en salle. Parce que le film est concurrencé notamment par Jurassic World, le 4.
Ok. Dans ce film, est-ce qu'on entend le morceau In the House, In a Heartbeat de John Murphy, qui était un peu le tube qu'on entendait dans les deux premiers?
Peut-être, j'ai pas trop fait attention à la
vidéo. Bon, on va se l'écouter dans Imaginaire sur la 101.5.
Je vais réviser.
Alors John Murphy qui vient aussi de réaliser la musique de Superman, hein. Ça sort demain au cinéma. la BO de 28 jours, 28 semaines, 28 ans plus tard, par John Murphy.
Et donc dans 28 semaines, c'est pas Jeremy Irons, comme j'ai dit, c'est Jeremy Renner, vous aurez corrigé de vous-même, qui jouait dans l'univers Marvel, cinématographique Marvel, qui faisait Hawkeye. Oui.
Je vais vous reparler de zombies, mais cette fois en livre dont vous êtes le héros. Alors, Le Défi Fantastique, l'un des tout derniers, donc, qui avait été écrit par Ian Livingstone en 2012, et dont on a eu la traduction française en 2014. En pleine période, en fait, je pense, de boom avec The Walking Dead,
ouais.
Le zombicide semble sortir à peu près dans les mêmes eaux.
2012.
Mais c'est vrai que ça a été... peut-être 28 jours plus tard, qui a un peu relancé, enfin, qui a apporté un zombie un peu différent, hein, un zombie rapide. Et après, Walking Dead, qui finalement commence un peu pareil. Hein. Rick se réveille dans un hôpital.
Ouais, c'est la même scène d'ouverture, mais Walking Dead joue plutôt sur le zombie classique, en fait.
Oui, ouais. Mais il découvre un monde vide, il croise quelques zombies, il arrive à Atlanta, je crois, qui est déserte.
C'est ça, c'est Atlanta, en Géorgie. Ouais. Et pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on se l'est posé, là, la BD est arrivée après le film de Danny Boyle.
Ouais, ouais.
Donc, qui a copié sur qui? C'est pas Danny Boyle, en tout cas.
Bah là, on n'aura pas justement un monde vide, on aura plutôt un château dans lequel on se retrouve enfermé pour des expériences interdites. C'est-à-dire qu'on a le maître des lieux, Gingrich Yur, qui souhaite devenir le maître du monde en l'envahissant avec des hordes de zombies, les êtres humains qu'il transforme à l'aide d'un virus.
De quel monde on parle là? Parce que t'es dans un défi fantastique.
Contemporain.
Ah d'accord, ok.
Ouais. Donc là, il surfe sur la vague The Walking Dead, Ian Livingstone, comme il a surfé sur la vague Mad Max, rappelle-toi Romain, avec le combattant de l'autoroute.
Waouh, ouais, ça date.
Dans les années 80.
Mmh.
Alors moi, j'aime bien cet opus, qui s'apparente un petit peu à un jeu d'arcade sur papier. Déjà, on a différents types de zombies, encore plus que dans le récent, là, 28 ans plus tard. On aura, par exemple, à un moment donné, un zombie qui se retourne et qui va nous balancer une grenade, qu'il dégoupille. Je l'appelle un peu le grenadier.
C'est une aussi
un... Ouais, il y a aussi un zombie qui monte des marches. Et en fait, on se retourne et on le voit avec trois bâtons de dynamite.
Mm-hmm.
C'est quand même des zombies très menaçants.
Ouais.
Et même à un moment donné, il y en a tout un groupe qui dévale un escalier avec des haches, des machettes, des marteaux.
Donc ils utilisent des objets, ils ne se contentent pas de mordre comme certains.
Voilà, ils utilisent là des objets, et ça j'apprécie bien, des armes, voilà, ils récupèrent des choses, et ça permet justement de les identifier, sans leur donner des noms, mais de varier un petit peu le type de zombie qu'on affronte, hein. c'est un peu redondant quand même, à un moment donné.
Mmh.
Et même, et ça aussi, il faut le souligner, c'est illustré aussi par Kev Crossley, et ça permet vraiment encore de plus les avoir dans la rétine. Et on a des face-à-face par moment. On se dit, je rentre dans une pièce et hop, il y a un zombie qui nous attaque. Dont un que j'aime bien, un peu baveux et borgne. Un petit peu un vieux zombie. Mais comme il nous précipite à terre, moi j'imagine qu'on n'a pas le temps de prendre son arme à feu et qu'on doit un peu lutter au corps à corps. Et on a un peu de la tension. Parce que s'il nous mord, on devient zombie. Donc, par moment, on est surpris.
Alors, attends, et si on devient zombie, le livre est fini?
Ah bah, il est fini.
D'accord, ok.
On rejoint, en fait, l'armée de Gingrich et Yur. Mais, attention, contrairement à l'île des morts que j'ai testée de Kevin Tondin, dont j'ai présenté, rappelle-toi, Romuald, Alien Marine Colonial, lors de la précédente émission, eh bien, l'effet de surprise, un petit peu, il se dilue. Parce qu'en fait... dans l'île des morts de Kevin Tondin, pour faire bref, là c'est tout l'environnement en fait qui est contaminé. On a même des aigles zombies et tout. Mais on a peur de tomber sur des zombies. Voilà, même si on est un militaire. Tandis que là, on doit en fait tous les buter. Donc à un moment donné, on se dit, on se prépare à voir du zombie.
Ouais, côté jeu vidéo.
Voilà, on frissonne pas autant que souhaité. Parce que comme nous le rappelle, même dès le début de l'aventure des PNJ, Boris, c'est un peu comme la voix de Ian Livingstone. Hein. En fait, il nous dit, tu dois tous les tuer.
Bon.
Parce que s'il t'en manque un seul, c'est fini de notre monde. Donc il va falloir tenir un décompte des zombies.
Ah ouais, quand même.
Et moi, bah voilà, en fait, j'ai eu 21 confrontations avec des zombies, de 1 jusqu'à 27. Et à partir de là, je calcule, et pour tout vous dire, Romuald et Romain, j'en suis arrivé à 138 zombies lorsque je parviens au sous-sol. Là où il y en a encore plus, en plus. Oh. Attention. Hein. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est qu'à des moments, on a des rats, on dirait des rats zombies. Mmh. Et on a aussi des chiens, donc à un moment, il faut pas se perdre dans les calculs. Bon, bah, c'est pas quand même d'une grande mathématique. Alors, ce qui est bien, c'est que comme on peut découper le château en petits niveaux, c'est-à-dire que par moment, on sait qu'on descend un escalier, on arrive à, par exemple, à un rez-de-chaussée ou on monte un étage, eh bien, ça permet de, comment dire, de dessiner différentes petites zones et de traquer plus facilement les zombies. Dire, tiens, j'ai fait tel petit niveau, hop, j'en ai eu 19, là, j'en ai eu 51. Voire j'en ai eu qu'un. Et autrement, ce qui est bien, un peu comme dans le combattant d'autoroute, mais là c'était plus, rappelle-toi Romain, on en avait parlé de la Dodge Interceptor, on avait les lance-missiles, les lance-huiles, lance-roquettes et tout, enfin des mitrailleuses. Là, on a beaucoup d'armes, mais pour nous, on a une mitraillette, un fusil à pompe, on démarre avec nos poings, un canif.
Donc il y a bien un côté très jeu vidéo.
Très jeu vidéo.
Change ton arme comme
mais
ça.
Mais c'est très 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 important. Alors, peut-être que c'est le cas aussi dans Zombicide, Romuald, d'avoir des armes de gros calibre. Parce que quand on a affaire à des masses de zombies, c'est 27 bien. À un moment donné, il ne s'agit pas de plaisanter. Parce que si malheureusement les dés nous font défaut, chaque zombie qui reste nous enlève un point d'endurance. Donc attention s'ils sont énormes. Et on a aussi des grenades. Donc ça permet d'en lancer et de réduire un peu le nombre des zombies. Mais attention de ne pas exploser avec. Alors sur le maître des lieux, Jacques Gréchure, je le trouve assez léger. Mais on apprend quand même quelques informations sur lui. On voit son portrait. Ça c'est classique, on tombe sur le portrait du méchant. On sait que c'est un tireur d'élite. Si on fait une erreur comme j'ai fait. Donc il m'a en fait tué. Ce qu'il m'a aperçu. Il aime aussi les belles automobiles. Donc on en apprend un peu sur lui, mais ça reste quand même un personnage assez léger quand même. Ici, on fonctionne avec l'endurance. Il n'y a pas d'habileté. Ah, ça permet des combats beaucoup plus rapides, je trouve, beaucoup plus fun. On n'a pas autant d'assauts que ça. Tout se joue un peu avec les dégâts qu'on occasionne avec nos armes. Alors la mitraillette, c'est 2D plus 6. Tu vois, ça peut faire très vite beaucoup de dommages, jusqu'à 18. Tandis que le zombie, lui, souvent nous enlève qu'un point d'endurance, ou deux, s'il a une arme, par exemple, blanche. Et donc, je disais, on n'a pas de caractéristiques d'habileté et de chance. Et là, en fait, Yann Livingstone joue sur le fait qu'on a à lancer des dés par moment, enfin un dé. Si je fais 1, 2, 3, il peut m'arriver quelque chose de bien ou de pas bien, comme 4, 5, 6. Et ça peut aboutir à des mâts. C'est-à-dire que je peux connaître un sort funeste si j'ai pas le bon score au dé. C'est bien, mais par moment, on est frustré parce que on n'a pas envie de finir comme ça. Quoi.
C'est un petit peu trop punitif.
Faire un jet de dés. Alors, c'est un livre qui se prend pas au sérieux. Il y a un humour so-british. Même Yann Livingstone fait référence à la quête du Graal, à Pip, où des fois, on avait un inventaire, mais vraiment innombrable d'objets. Et un peu, il se moque un peu même de lui-même. Il dit, voilà, je vous propose d'acheter sur 15 articles. Vous avez $5. Essayez de discerner lesquels d'articles sont bien achetés. Donc on a 5 chances sur 15. Et ça m'amuse parce que le personnage de Bruce dit voilà, je veux bien vous vendre des trucs, aidez-nous donc à tuer Jean Gréchure et ses zombies. Et effectivement, si on ne fait pas le bon choix d'objet, on peut passer à côté de codes ou d'informations que ces objets nous permettraient d'atteindre. Mmh. Donc j'ai bien aimé l'humour, même il se représente sur un socle. On voit sa tête à Yann Livingstone sur une des illustrations. Donc il a quand même de l'humour. Il se moque un peu de lui-même parce qu'on lui reproche souvent contre un bal, c'est vrai, avec ses aventures, des tonnes et des tonnes d'objets. Bah voilà, j'ai fait une petite joke et j'ai fait une référence aussi bienvenue à la quête du Graal, donc Derby Brennan. Donc moi, franchement, c'est un livre que je vous invite à faire, d'autant plus que Vic, un ami de la Taverne des Aventuriers et qui a participé donc à rendre le livre le plus jouable possible, puisque la traduction française le permet, grâce aussi au travail de qualité de Gallimard Jeunesse, sur lequel je reviendrai plus tard. Eh bien voilà, Vic permet justement sur la taverne d'avoir des ajustements qui rendent donc le livre plus jouable. Donc allez le voir dans la partie défix.
Ok.
Voilà, pour moi c'est un livre-jeu donc très drôle, un peu nanar, Jean-Luc Aimeret, mais voilà, qui permet de passer de bons moments tant qu'on le fait pas d'un seul coup parce que ça peut devenir répétitif d'avoir autant de zombies à buter dans les quelques centaines. Attention,
quand même.
J'en suis loin.
T'avais d'autres livres-jeux à présenter, non?
Alors, j'ai cité L'île des morts. Ça fait partie d'une quadrilogie de Kevin Tondin, qui est trouvable sur Litteraction.
Ah oui, voilà. Donc, c'est que en numérique.
PDF. Ouais. Et également, Georges le zombie, où on incarne un zombie dans la CPM, qui a envie de manger des humains, des jeunes, qui font du bordel. Et ça, j'ai adoré, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à les manger. Mais comme je les attaque avec certaines armes, je les mange, mais avec des punaises et des agrafes. Donc, c'est pas de la bonne viande. Donc, l'auteur nous invite à refaire l'aventure pour avoir dans les trois meilleures fins possibles.
Ok.
C'est aussi sur Litteraction et ça a eu le mini Yaz d'or.
D'accord.
50 paragraphes, très drôle, très fun. On incarne Georges, le zombie.
Et ton choix musical, Youngblood.
Voilà, un groupe que j'apprécie, qui vient de sortir son nouvel album, dont a été extrait Zombie en single.
Youngblood dans Imaginaire sur le 101.5.
Sans des zombies.
On va parler jeu maintenant ?
Eh ben, on va parler jeu et on va parler du jeu de zombies oui. De cette dernière décennie, c'est j'ai nommé Zombicide. Alors, est-ce que vous connaissez Guillotine Games ? Peut-être pas. C'est une équipe française de créateurs de jeux qui sont des anciens de chez Rackham Entertainment.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà. Et en fait, Rackham Entertainment était un éditeur de jeux français qui a disparu en 2010. Et à qui on devait le légendaire Wargame Confrontation.
Qui est en train d'être rebooté chez Mythic
ouais,
Games,
ils ont commencé à présenter
ils ont
le
pris
projet.
Des gens de l'équipe d'époque d'ailleurs.
Exactement, ils ont même fait que ça je crois. et donc un des nombreux auteurs de Confrontation d'ailleurs c'était Arnaud Cuidet.
Ah oui.
Bref, en 2012, donc Guillotine Games, tout jeune, a commencé son aventure en lançant un financement participatif pour leur tout premier jeu. Qui se voulait Ameritrash. Alors Ameritrash, ouais. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeu de société qui a énormément de matériel, qui a un univers très très puissant, très fort, avec un thème très présent, et qui se joue avec beaucoup de hasard, parce qu'il y a beaucoup de dés. C'est l'inverse des jeux allemands, où je crois qu'on appelle
des
ça
Games, Euro Games, hein,
où c'est beaucoup plus conceptuel, il y a moins de hasard. Donc voilà, ils l'ont nommé Zombicide, évidemment, et chose pas banale pour l'époque, en 2012, bah, ils ont levé plus de 780 000 $ sur Kickstarter, ce qui était quand même du jamais vu à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, c'était battu, mais on était en 2012. Donc, succès immédiat pour le premier projet de Guillotine Games et de l'éditeur d'Atlanta, donc qui s'appelait Cool Mini or Not, que maintenant on appelle
Common,
c'est C-M-O-N, Common, et le jeu a été édité dès l'année suivante par Edge en France. Donc là j'ai amené une boîte comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc il y a énormément de choses, il y a des figurines dans tous les sens. Alors pourquoi ce carton de Zombicide ? À mon avis, trois choses. Un, le thème les zombies. Bam, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs jouent. Un ou deux survivants, il y en a six. Donc selon qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 autour de la table, on va se partager les survivants.
Et tu penses que ça arrive au bon moment ?
Comment ça ?
Bah, que les gens étaient en pleine zombie mania, peut-être avec les Walking Dead.
Ouais, il y avait Walking Dead qui venait de commencer un ou deux ans avant. Si, la série, je crois. Alors la BD, bien sûr, était plus vieille, mais la série qui a marqué quand même son
beaucoup
époque.
Beaucoup plus populaire.
Ouais, je crois que c'est 2011, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait ce thème-là qui est devenu à la mode, comme avant, les vampires étaient à la mode dans les années 2000. Deuxièmement, le matériel, comme j'ai déjà dit, c'est un gros jeu avec énormément de matos, des figurines. Là, j'en ai amené quelques-unes. Si je compte bien, il y a plus de 70 figurines de zombies. Il y a 6 survivants, il y a des figurines spéciales. Il y a du matos dans tous les sens.
Et beaucoup de figurines différentes.
Elles sont différentes. D'ailleurs, elles sont thermomoulées, c'est-à-dire qu'on peut les re-ranger dans leurs petites cases sympathiques. On a des paquets. Alors là, c'est la première édition. Pour les éditions après, je peux pas tout vous dire. Mais voilà, on a des séries de 7 zombies différents et on multiplie fois 4 le zombie.
Parce qu'avant ça, on avait Zombie, donc qui était sorti en France traduit par Edge.
Un jeu de tuiles
qui était très rudimentaire où même tous nos personnages avaient la même tête. Il y avait juste la couleur qui les différenciait. Il y avait une figurine de personnage et une figurine de zombie, et en fait le but du jeu c'était de sortir la tuile de l'hélicoptère et de quitter la ville quoi. Alors il y a eu beaucoup d'extensions qui ont un peu agrandi le truc et tout, mais ça restait très très rudimentaire quoi.
Et d'ailleurs dans Zombicide, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 6 survivants, ils sont tous différents, ce sont tous des archétypes et ils ont tous des pouvoirs différents. Et donc en fait, on a des scénarios, on a des tuiles qui représentent une ville dans la première, qui sont recto verso. C'est quand même du beau matos et il y a des super illustrations qui sont, entre un peu la BD européenne et le comics, c'est un peu difficile à déterminer, qui marchent très très bien avec une ligne très claire. Ça a été fait par plusieurs illustrateurs, je sais pas trop lequel avait le lead, mais parmi ceux-là, il y avait Nicolas Fructus.
Ah oui, quand même.
Qu'on connaît pour pour Horror Arkham, mais il a fait des beaux livres sur Cthulhu par la suite. Donc voilà. Et troisième point fort, c'est la mécanique du jeu, c'est les règles. Elles sont pas très nombreuses, pas complexes. Tout le monde peut y aller. Hein. D'ailleurs, un des testeurs des règles, c'était un des nombreux testeurs. J'ai trouvé ça dans la liste. C'est Sébastien Cellerin. Qu'on a connu aussi.
Mais il faisait partie de l'équipe Rackham aussi.
Ce sont quasiment tous des anciens de Rackham. Alors, c'est dit à partir de 14 ans, je pense que les règles, c'est à partir de 10 ans, un gamin pourrait s'en... Je pense que c'est à partir de 14 ans parce que le thème...
C'est un peu violent.
Ouais, le thème a l'air un petit peu comme ça, BDS, mais enfin bon, il y a quand même quelque chose un petit peu grimdark hein, dedans, c'est voire gore par moment dans l'intérieur du jeu. Alors, les mécaniques du jeu, c'est simple, on a des survivants, ils doivent suivre un scénario, donc ils ont une mission, la plupart du temps, c'est tout simplement s'en sortir, c'est traverser la carte, arriver à un autre endroit. Donc chacun a une capacité spéciale, par exemple certains peuvent tirer deux fois, d'autres se dépasser deux fois. Enfin, ils ont tous leur spécificité qui permet d'avoir une vraie complémentarité. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout le monde joue contre le jeu, c'est du coopératif pur.
Tout le monde joue contre les zombies.
Ouais, tout le monde joue contre les zombies. On a trois actions par personnage, c'est simple, on peut fouiller, se déplacer, ouvrir une porte, réorganiser son inventaire, combattre, ultra simple. Et puis une fois qu'on a joué, c'est la phase des zombies. Alors les zombies font trois choses dans l'ordre. D'abord, ils attaquent. Donc s'il n'y a pas de zombies sur le terrain au départ, ils attaquent pas évidemment. Mais première chose qu'ils font, ils attaquent. C'est-à-dire que s'ils sont sur une case où il y a un survivant qui a fini son mouvement, eh ben ils vont le blesser automatiquement. Donc les survivants doivent absolument toujours éviter les zombies. Un zombie fait une blessure, un survivant a en général deux points de vie. Donc ça va très vite. Et puis ensuite, ils vont se déplacer. Et là, la mécanique elle est très simple. S'ils ont des lignes de vue vers les survivants, ils se dirigent vers les survivants. Sinon, c'est au bruit, parce qu'il y a une notion de bruit. Quand on casse une porte, on va faire du bruit.
Ouais.
Et là, ils vont se déplacer. Ultra rapide, ultra facile à comprendre, à mettre en place. Et puis ensuite, on va tirer une carte qui va faire apparaître de nouveaux zombies, qui vont s'ajouter aux zombies déjà présents. Et là, il y a une impression de vague qui se met en place, d'accélération du jeu, d'angoisse qui monte pour les joueurs qui sont là. Et ce qui est marrant, justement, c'est que, bah, voilà, les joueurs, ils vont commencer à tuer des zombies. Donc, ils tuent des zombies, ils montent en compétence, ils gagnent des points d'expérience, un petit peu comme dans un jeu de rôle. Oui, sauf que plus on monte en compétence, plus on a une chance de passer un seuil qui fait que les zombies ne vont pas arriver à un ou deux tranquilles, mais on va avoir plus de zombies qui vont arriver avec des zombies qui vont être très différents. Certains vont courir, certains vont être énormes, etc. Donc, cette vague, on peut pas les combattre. On est obligé de vraiment faire sa mission. À la fin, au départ, on fait un petit peu les cow-boys. Très, très vite, ça se passe très, très mal. On peut se sacrifier pour sauver la communauté, ça peut arriver. Enfin, il y a ce côté hyper fun. C'est rafraîchissant et c'est très rigolo, mais c'est stressant. C'est très stressant. Alors, en termes de gamme, qui dit succès, on va tenter de faire plus d'argent avec de nouveau un lancement de Kickstarter, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé des tonnes, ces 10 dernières années, d'extensions, plus luxueuses les unes que les autres, et donc plus chères les unes que les autres, avec des nouveaux scénarios, des règles additionnelles, des survivants nouveaux, de nouveaux monstres dévoreurs, etc. Mais il y a aussi des stand-alone, c'est-à-dire des boîtes qui sont sorties et qui pouvaient se jouer toutes seules. On pouvait acheter que ces boîtes-là avec des nouveaux thèmes. Parmi les grands succès, il y avait Zombicide, Black Plague, qui est sorti en 2016, et là qui se passait dans un monde plutôt fantasy.
Assez moyenâgeux.
Moyenâgeux, mais je crois qu'il y a des orques dans ce truc-là. Zombicide Invader, qui est carrément une parodie de Warhammer 40 000. Il y a eu le très plébiscité, qui a vraiment bien marché, Marvel Zombicide. Alors forcément, on prend Zombicide qui cartonnait, on prend Marvel, on mélange les deux, c'est génial. On a des zombies super-héros, on a des super-héros qui sont pas zombies, et hop, et là, on part dans tous les sens. Ça c'est sorti il y a pas très très longtemps, en 2023. Et il faut noter qu'entre-temps, en 2021, ils ont sorti une deuxième édition de Zombicide avec des nouvelles règles. Donc les règles tout simplement épurées, plus claires, avec un système plus nerveux. Donc ils ont vraiment fait les choses comme il fallait.
Je retiendrai la boîte quand même Monty Python, la boîte de figurines Monty Python. Jamais trop compris parce qu'il y a eu quelques collabs, comme on dit, plutôt dans le jeu vidéo.
Ouais.
Et là, je sais pas. Avec le pied géant, la figurine du pied géant en plastique qu'on voit dans le générique du Monty Python Flying Circus.
Il y a une gamme de fous.
Qui doit pouvoir écraser des zombies, je ne sais pas. La boîte coûte à peu près 45 euros. Hein. Donc le jeu de base, ça allait, mais si on voulait commencer à quitter un peu notre jeu avec tous ces jolis petits trucs qui sortaient à côté...
La boîte aujourd'hui de Zombicide, elle est à 100, 120, 130. Hein. C'est à peu près ce qu'on trouve pour une boîte neuve. Effectivement, il y a eu la nuit des morts vivants avec la boîte, je crois que c'était en noir et blanc et en gris, enfin en monochrome. Il y a eu donc en à côté, il y a eu un jeu de rôle qui est sorti qui respecte exactement l'idée du zombicide, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle. On joue des archétypes, c'est bourrin, on y va, c'est à peu près le même truc. Il paraît que, alors moi j'ai pas joué du tout, j'ai pas lu. Il paraît que c'est quand même sympa, c'est fait par une équipe d'Italiens. C'est sorti il y a 2 ans, qui quand même, ce qui sont des vieux routards du jeu de rôle. Il y en a un, je crois, qu'il avait participé à la rédaction de l'Anneau Unique. Donc ce qui explique peut-être pourquoi ça marche bien. Pas cher, c'est un livret de 30-40 euros. Moi, je vois bien faire jouer des jeunes, pas trop jeunes, évidemment, en bibliothèque pour leur faire découvrir un jeu de rôle où on se prend pas la tête, qui est ultra bourrin, qui fera pas forcément plaisir à tout le monde à cause de ça. Mais je pense qu'un jeune de 12 ans, ça peut lui faire une petite porte d'entrée sur.
Et puis tu peux ressortir ton matériel du jeu de plateau, quoi.
Exactement.
T'as déjà les figurines, les tuiles. Mieux,
ils ont même vendu des figurines spéciales pour le jeu de rôle. Voilà. Donc ils sont très très forts en marketing. Alors aujourd'hui, bah voilà, on est 12 ans plus tard, il y a eu 2 millions d'exemplaires vendus. Hein, 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors à côté du Monopoly, qui en a vendu 300 millions depuis 1935, ça c'est rien, effectivement. Mais bon, par rapport à plein d'autres choses, c'est génial. Sauf que Coup de Théâtre, le mois dernier, hein, en juin 2025, bah, comme un, il est en grande difficulté financière, ils ont viré des gens. Et là, ils ont vendu les bijoux de la couronne, c'est-à-dire Zombicide, la licence à Asmodée, le gros géant des jeux. D'origine française, Asmodée, on sait d'où ça vient, qui maintenant est passé par des méandres donc financiers, mais qui sont rentrés en bourse, qui sont aujourd'hui complètement indépendants des fonds de pension qui les menaient, mais qui pèsent quand même 2,5 milliards d'euros. Donc ils ont racheté Zombicide, ils viennent d'arriver en bourse en début d'année. Hein. Donc hop, ils rachètent, ils sont en train de tout bouffer, ils font un catalogue immense, ils se distribuent aussi, parce que par exemple, ils possèdent Philibert. La boutique de jeux. Et voilà. Et ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Zombicide? Grande question. Je pense qu'ils vont pas rester là-dessus. Ils ont déjà dit que ça allait pas pourrir sur place. Ils ont fait ce jeu de mots-là. Il faut aussi savoir que, eh bien, Guillotine Games est toujours aux commandes. Donc, espérons que Zombicide est encore de beaux jours devant lui.
On s'écoute un petit extrait du thème de Réanimator. Et puis, on vous parle de nos lectures, nos futures lectures de l'été dans quelques minutes sur le 100.5.
C'était passionnant ce moment-ci.
Le thème de Réanimator signé Richard Band, qui s'inspirait pas mal de celui de Psychose par Bernard Herrmann. Lecture de l'été, moi je. Alors Réanimator, le film, donc Stuart Gordon, Brian Usna, 85, quelque chose comme ça, comédie de zombies, on peut dire, qui a quand même pas mal marqué son époque, avec quand même des idées gore et tout, des trucs assez crasouilles, mais un peu rigolos. Il avait été novélisé récemment. Je retrouve le nom de cette collection anglo-saxonne qui relance un peu les novélisations de films comme dans les années 80. J'ai lu, je crois, en poche, on avait eu des Aliens, The Thing, etc. Et ils ont décidé d'améliorer aussi un peu les novélisations. Et certains sont traduits en français par les éditions Faute de Frappe dans une collection qui s'appelle Compact Horror. On a eu aussi le Wishmaster, par exemple. Et moi, je viens de m'enfiler Cruel Jaws de Brad Carter. Alors, Cruel Jaws, c'était un film de sharksploitation italien, mais qui datait de 94, quelque chose comme ça. Donc, assez tardif hein, par rapport à par rapport aux Dents de la Mer, avec un scénario qui piquait aux Dents de la Mer 1 et 2. Et Bruno Mattei, voilà, réalisateur italien, qui utilisait énormément de stock shots aussi dans ce film. Apparemment, les scènes... Les plus impressionnantes ne sont pas des scènes qu'il a filmées. Bon, bref, est considéré quand même comme un navet, on peut le dire. Mais par contre, Brad Carter, à qui on a demandé de le novéliser, on a fait quelque chose de un peu plus épique. Hein. Il s'est dit, bon, finalement, je vais en refaire quelque chose d'un peu trash aussi. Ça aurait pu sortir chez Carnage ou les éditions Trash avant. Donc je conseille, ça coûte 10 €, c'est vraiment tous les clichés du film de monstres américains sont là, avec aussi une dose de fesses, on peut le dire. Donc voilà, mais vous pouvez quand même le mettre sur la plage cet été, c'est juste un joli petit requin en couverture, ça effrayera pas trop les gens. Sébastien, toi aussi,
petite lecture d'été. Quelques lectures d'été chez Gallimard Jeunesse, les deux, La nuit du loup-garou de Jonathan Green, Le voyage de la pierre de lune de Joe Dever. Alors, sachant que pour Le voyage de la pierre de lune, voyage, c'est les vacances, et c'est la réédition donc d'un titre qui était sorti en poche, mais sans les illustrations, enfin, sans une majorité d'illustrations, lorsque vraiment le livre-jeu n'avait plus le vent en poupe.
Ouais.
Et en plus, si vous lisez ces deux bouquins, donc de Jonathan Green et de Joe Dever, vous pouvez retrouver donc un approfondissement de Loup solitaire et de la personne de Jonathan Green sur l'émission YouTube